Tite-Live, Histoire romaine, livre 1, troisième partie, Numa Pompilius, 715 à 673 avant Jésus-Christ. Le premier interrègne est l'avènement de Numa Pompilius. Cependant, l'ambition du trône et les rivalités agitaient le Sénat. Nul parmi ce peuple nouveau n'ayant encore de supériorité constatée, les prétentions ne s'élevaient pas encore entre les citoyens. La question se débattait entre les deux races de peuples. Les Sabins d'origine, qui depuis la mort de Tatius n'avaient pas eu de roi de leur nation, et qui dans cette société fondée sur l'égalité des droits craignaient de perdre ceux qu'ils avaient à l'Empire, exigeait que le roi fût élu dans le corps des Sabins. Les Viromains, de leur côté, repoussaient un roi étranger. Cependant, ce conflit de volonté n'empêchait pas les citoyens de vouloir unanimement le gouvernement monarchique. On ignorait encore les douceurs de la liberté. Mais cette ville sans gouvernement, cette armée sans chef, environnée d'une foule de petits états toujours en fermentation, faisait craindre aux sénateurs l'attaque imprévue de quelques peuples étrangers. On sentait le besoin d'un chef. Mais personne ne pouvait se résoudre à céder. Enfin, il fut convenu que les sénateurs au nombre de 100 seraient partagés en 10 décuries, dont chacune devrait conférer à l'un de ses membres l'exercice de l'autorité. La puissance était collective, un seul en portait les insignes et marchait précédé des licteurs. La durée en était de 5 jours pour chaque individu et à tour de rôle. La royauté resta ainsi suspendue pendant 1 an, et l'on donna à cette vacance le nom d'interrègne, encore en usage aujourd'hui. Le peuple alors se plaignit vivement de ce qu'on eût aggravé sa servitude, et qu'au lieu d'un maître, il en eût 100. Il paraissait décidé à ne plus souffrir désormais qu'un roi, et à le choisir lui-même. Les sénateurs conclurent de ces dispositions du peuple qu'il devait résigner volontairement les pouvoirs qu'on allait leur arracher. Mais en abandonnant au peuple la toute-puissance, ils en retinrent effectivement plus qu'ils n'en accordaient, car ils subordonnèrent l'élection du roi par le peuple à la ratification du Sénat. Cette prérogative usurpée s'est perpétuée jusqu'ici dans le Sénat pour la sanction des lois et les nominations aux emplois de la magistrature, mais ce n'est plus qu'une formalité vaine. Avant que le peuple aille aux voix, le Sénat ratifie la décision des comices, quelle qu'elle soit. Mais à cette époque, l'interroi convoqua l'assemblée et dit « Romains, au nom de la gloire, du bien-être et de la prospérité de Rome, nommez vous-même votre roi. Tel est le vœu du Sénat. Nous ensuite, si vous donnez à Romulus un successeur digne de lui, nous ratifierons votre choix. » Le peuple fut si flatté de cette condescendance que, pour ne pas être vaincu en générosité, il se contenta d'ordonner que l'élection serait déférée au Sénat. Dans ces temps-là vivait Numa Pompilius, célèbre par sa justice et par sa piété. Il demeurait à Cure, chez les Sabins. C'était un homme très versé pour son siècle dans la connaissance de la morale divine et humaine. C'est à tort qu'à défaut d'autres on lui a donné pour maître Pythagore de Samos, il est avéré que ce fut sous le règne de Servius Tullius, plus de 100 ans après Numa, que Pythagore vint à l'extrémité de l'Italie, dans le voisinage de Métaponte, d'Héraclée et de Crotone, tenir une école de jeunes gens voués au culte de ses théories. Et même en admettant qu'il eût été contemporain de Numa, de quel lieu eût-il attiré des hommes épris de l'amour de s'instruire, Par quelle voie le bruit de son nom était-il arrivé jusque chez les Sabins? Quelle langue l'aidait à communiquer? Et comment enfin un homme seul aurait-il pu pénétrer à travers tant de nations aussi différentes de mœurs que de langage? Je pense plutôt que Numa puisait en lui-même les principes de vertu qui réglaient son âme, et que le complément de son éducation fut moins l'effet de ses études dans les écoles philosophiques étrangères que de la discipline mâle et rigoureuse des Sabins, la nation la plus austère de l'Antiquité. À ce nom de Numa, et bien que l'élection d'un roi parmi les Sabins dût sembler constituer la prépondérance de ce peuple, personne parmi les sénateurs romains n'osa préférer à un tel homme ni soi, ni tout autre de son parti, sénateur ou citoyen, et tous sans exception décernèrent la couronne à Numa Pompilius. Mandé à Rome, il voulut, à l'exemple de Romulus, qui n'avait jeté les fondements de la ville et pris possession de la royauté qu'après avoir consulté les augures, interroger les dieux sur son élection. Un augure, qui dut à cet honneur de conserver à perpétuité ce sacerdoce public, conduisit Numa sur le mont Capitolin. Là, il fit asseoir sur une pierre le nouveau roi, la face tournée au midi, et lui-même ayant la tête voilée, et dans la main un bâton recourbé, sans nœud, appelé Litius, prit place à sa gauche. Alors, promenant ses regards sur la ville et la campagne, il adressa aux dieux ses prières. Il traça en idées des limites imaginaires à l'espace compris entre l'Orient et l'Occident, plaçant la droite au midi et la gauche au nord. Puis aussi loin que sa vue pouvait s'étendre, il désigna en face de lui un point imaginaire et enfin, prenant le Litius dans la main gauche et étendant la droite sur la tête de Numa, il prononça cette prière. « Grand Jupiter, si la volonté divine est que Numa dont je touche la tête règne sur les Romains, apprends-nous cette volonté par des signes non équivoques, dans l'espace que je viens de fixer. » Il définit ensuite la nature des auspices qu'il demandait, et lorsque ces auspices se furent manifestés, Numa, déclaré roi, quitta le temple. Les réalisations de Numa. Désormais maître du trône, Numa voulut que la ville naissante, fondée par la violence et les armes, le fût de nouveau, par la justice, par les lois et la sainteté des mœurs. Et comme il lui semblait impossible, au milieu de guerres perpétuelles, de faire accepter ce nouvel ordre de choses à des esprits dont le métier des armes avait nourri la férocité, il crut devoir commencer par adoucir cet instinct farouche, en le privant par degrés de son aliment habituel. Dans ce but, il éleva le temple de Janus. Ce temple construit au bas de l'Argilette devint le symbole de la paix et de la guerre. Ouvert, il était le signal qui appelait les citoyens aux armes. Fermé, il annonçait que la paix régnait entre toutes les nations voisines. Deux fois il a été fermé depuis le règne de Numa, la première sous le consulat de Titus Manlius à la fin de la première guerre punique, la seconde sous César Auguste, lorsque par un effet de la bonté des dieux nous vîmes, après la bataille d'Actium, la paix acquise au monde et sur terre et sur mer. Quand donc Numa l'eut fermé, quand par des traités et par des alliances il eut consommé l'union entre Rome et les peuples circonvoisins, quand il eut dissipé les inquiétudes sur le retour probable de tout danger extérieur, il redouta l'influence pernicieuse de l'oisiveté sur des hommes que la crainte de l'ennemi et les habitudes de la guerre avaient contenus jusqu'alors. Il pensa d'abord qu'il parviendrait plus aisément à adoucir les mœurs grossières de cette multitude et à dissiper son ignorance en versant dans les âmes le sentiment profond de la crainte des dieux. Mais ce but ne pouvait être atteint sans une intervention miraculeuse. Numa feignit donc d'avoir des entretiens nocturnes avec la déesse Égérie. Il disait que, pour obéir à ses ordres, il instituait les cérémonies religieuses les plus agréables aux dieux et un sacerdoce particulier pour chacun d'eux. Avant tout, il divisa l'année suivant les cours de la lune, en 12 mois. Mais comme chaque révolution lunaire n'est pas régulièrement de 30 jours, et que par conséquent l'année solaire eût été incomplète, il suppléa cette lacune par l'interposition des mois intercalaires, et il les disposa de telle façon que tous les 24 ans, le soleil se retrouvant au même point d'où il était parti, chaque lacune annuelle était réparée. Il établit aussi les jours fastes et les jours néfastes, car il pressentait déjà l'utilité de suspendre parfois la vie politique. Il songea ensuite à créer des prêtres, quoiqu'il remplît lui-même la plupart des fonctions qu'exerce aujourd'hui le Flamine de Jupiter. Mais il prévoyait que cette cité belliqueuse compterait plus de princes semblables à Romulus qu'à Numa lui-même, de princes faisant la guerre et y marchant en personne, et de peur que les fonctions de roi ne gênassent les fonctions de prêtre, il créa un flamine, avec mission de ne jamais quitter les autels de Jupiter. Il le revêtit d'insignes augustes, et lui donna la chair curule, pareille à celle des rois. Il lui adjoignit 2 autres flamines, l'un consacré à Mars, l'autre à Quirinus. Puis il fonda le collège des Vestales, sacerdoce emprunté aux Albins et qui n'était point étranger à la famille du fondateur de Rome. Il leur assigna un revenu sur l'État, afin de les enchaîner exclusivement et à toujours aux nécessités de leur ministère. Le vœu de virginité et d'autres distinctions achevèrent de leur imprimer un caractère vénérable et sacré. Il institua aussi en l'honneur de Mars Gradivus 12 prêtres sous le nom de Saliens. Il leur donna pour insigne la tunique brodée, recouverte sur la poitrine d'une cuirasse d'airain. Leur fonction était de porter les boucliers sacrés qu'on nomme anciles, et de courir par la ville en chantant des vers et en exécutant des danses et des mouvements de corps particulièrement affectés à cette solennité. Il nomma grand pontife Numa Marcius, fils de Marcus, sénateur. Il lui confia la surveillance de tout ce qui tenait à la religion. Par des règlements consignés dans des registres spéciaux, il lui conféra la prérogative de diriger les cérémonies religieuses, de déterminer la nature des victimes, à quel jour et dans quel temple elles seraient immolées, quels fonds subviendraient à toutes ces dépenses, et enfin, la juridiction sur tous les sacrifices célébrés, soit publiquement, soit dans l'intérieur des familles. Ainsi, le peuple savait où venir puiser des lumières, et la religion ne courait pas le risque d'être offensée par l'oubli des rites nationaux et l'introduction des rites étrangers. Le grand pontife ne réglait pas seulement les sacrifices aux dieux du ciel, mais encore les sacrifices aux dieux Man et les cérémonies funéraires. Il apprenait aussi à distinguer, parmi les prodiges annoncés par la foudre et d'autres phénomènes, ceux qui demandaient une expiation. Pour obtenir des dieux la connaissance de ses secrets, Numa Dédia sur le mont Aventin, un hôtel à Jupiter Hélicius, et consulta le dieu par la voix des augures sur les prodiges qui étaient dignes d'attention. Ces expiations, ces rapprochements intimes entre le peuple et les ministres de la religion, cette tendance nouvelle des esprits vers les exercices pieux, firent perdre à cette multitude ses habitudes de violence et tomber ses armes. Et la constante sollicitude des dieux qui paraissait intervenir dans la direction des destinées humaines pénétra les cœurs d'une piété si vive que la foi et la religion du serment, à défaut de la crainte des lois et des châtiments, eussent suffi pour contenir les citoyens de Rome. Tous, d'ailleurs, réglaient leurs mœurs sur celles de Numa, leur unique exemple. Aussi, les peuples voisins, qui jusqu'alors avaient vu dans Rome non pas une ville, mais un camp planté au milieu d'eux pour troubler la tranquillité générale, se sentirent peu à peu saisis pour elle d'une telle vénération qu'ils eussent considéré comme un sacrilège la moindre hostilité contre une ville occupée tout entière au service des dieux. Plus d'une fois, sans témoin, et comme s'il se fût rendu à une conférence avec la déesse, Numa se retirait dans un bois. Ce bois était traversé par une fontaine, dont les eaux intarissables s'échappaient du fond d'une grotte obscure. Ce bois fut par lui consacré aux muses, parce qu'elles y tenaient un conseil avec son épouse Égérie. La bonne foi eut aussi un temple consacré à elle seule, et Numa voulut que les prêtres de ce temple y allassent monter dans un char couvert à deux chevaux, et qu'ils eussent pendant les cérémonies la main enveloppée jusqu'au doigt, voulant dire que la bonne foi devait être protégée et que la main en est le symbole et le siège. Il institua beaucoup d'autres sacrifices, et les lieux destinés à leur célébration reçurent des prêtres le nom d'Argée. Mais la plus belle, la plus grande de ses œuvres, fut d'avoir maintenu pendant toute la durée de son règne la paix et la solidité de ses institutions. Ainsi, deux rois agrandirent successivement la cité romaine, l'un par la guerre, l'autre par la paix. Romulus avait régné 37 ans, Numa régna 43 ans. Rome alors était puissante, et les arts dont elle était redevable à la fois à la paix et à la guerre avaient perfectionné sa civilisation.